pas en parler très très longtemps. On va commencer par Paris-Clermont, qui est une histoire à l'épisode. Pour votre information, j'ai aussi travaillé sur les trains d'équilibre du territoire pour rendu de rapport également et piloter, si je veux être un peu prétentieux, la mise en place de tous les schémas directeurs des lignes TET conservées par l'État. Et ma dernière intervention ayant consisté à animer les travaux qu'on conduit à la présentation à Jean Castex d'un rapport sur la relance des trains de nuit. Il y a maintenant un peu plus d'un an. Donc, j'ai passé quelques heures sur ces sujets-là. Deux ou trois réflexions. La première rejoint un peu ce que j'ai dit dans mon propos précédent, c'est la nécessité d'avoir une vision systémique, une vision large. Effectivement, à Paris-Clermont, c'est quelque chose, c'est pour stabiliser la desserte à 3h06 avec le train direct qu'il y aura dans le schéma horaire, puisqu'on regarde un direct qui est un peu symbolique entre nous, hein, plus qu'autre chose. C'est le moins chargé de tous les trains d'ailleurs, le direct, de tous les trains qui circulent d'ores et déjà. Donc on gardera un direct à 33h06 et les trains à 4 arrêts en 3h15. Un des grands enjeux, c'est effectivement de stabiliser les conditions de circulation en Ile-de-France. À réseau à court, moyen et sans doute assez long terme, constant par ailleurs, puisque il y a un seul gros projet d'infrastructure à l'entrée de Paris qui est l'aménagement de ce qu'on appelle un terrier, c'est-à-dire un passage intérieur qui permettrait de supprimer les croisements à niveau à l'entrée de Gare de Lyon pour aller vers Bercy, et qui coûte probablement plusieurs centaines de millions d'euros. Sans parler de la complexité technique, la réalisation, maintenant la circulation à l'entrée de la Gare de Lyon, c'est un gros projet d'infrastructure connu. Sur Austerlitz, il y a un projet d'accroissement des capacités entre Paris-Austerlitz et Juvilly-sur-Orge, en revanche, pour rajouter deux voies. Donc il faut réussir à maintenir la qualité des entrées en Ile-de-France. Donc c'est tout un travail qu'il faut faire sur l'architecture des circulations et sur l'exploitation dans ces différents aspects. M. Pomarel évoquait la question des installations fixes de traction électrique, les sous-stations électriques en français courant, qu'il faut renforcer du côté de Morel. C'est un sujet qui a émergé il y a assez peu de temps, d'ailleurs il y a 2 ans à peu près, après qu'on avait approuvé le schéma directeur. Quand on a regardé comment on allait faire circuler les trains neufs, que ce soit les trains neufs commandés par l'État, donc à CAF, et qui arriveront le plus vite possible, il y a effectivement un peu d'incertitude sur le délai aujourd'hui de mise en service, ça commence à se savoir, les trains neufs commandés par la région Centre-Val-de-Loire, les trains neufs recommandés par la région Bourgogne et les trains neufs commandés par la région Île-de-France. Avec un constat partagé, que si on ne faisait pas un certain nombre d'investissements sur ces installations électriques, eh ben soit on n'utilisait pas les matériels en pleine capacité, soit on brillait la caténaire. Bon, je le dis de façon très, très sommaire, parce que si on risquait de griller la caténaire, là, on va à la catastrophe. Et on n'a pas complètement bouclé aujourd'hui le financement des quelques dizaines de millions d'euros qu'il faut mettre pour renforcer ces installations électriques. On va y arriver, parce que tout le monde a conscience, quand je dis tout le monde, c'est l'État et les régions, et c'est le réseau, que ce sera absurde de ne pas pouvoir utiliser des matériels neufs à pleine capacité. Et ça montre bien que la qualité de la relation avec Clermont-Ferrand est dépendante de cet effet système. Deuxième réflexion, l'importance de la triangulation, vous me passez ce vocabulaire géométrique, entre l'État, la région et SNCF Réseau, est un travail qui soit mené vraiment en commun, ce qui n'était pas toujours le cas, y compris entre l'État et SNCF Réseau, d'ailleurs, alors que l'État est l'actionnaire unique de SNCF Réseau et le propriétaire du réseau, pour définir des orientations de long terme, tant pour l'infrastructure que l'exploitation sur le réseau ferroviaire. Tous les sujets qu'a évoqué M. Pomarel renvoient à un moment ou à un autre aux responsabilités d'un des acteurs. Alors parfois c'est d'abord un dialogue État-SNCF Réseau, parfois c'est d'abord un dialogue SNCF Réseau région, parfois c'est les trois sur une espèce de pied d'égalité, mais on a toujours besoin d'une étroite coopération entre les trois partenaires qui doivent chacun rester dans ses compétences. La question du sauvetage des lignes de l'Aubrac et du Seine-Nord, il y en a une bonne illustration aujourd'hui pour l'État et le propriétaire du réseau, et la seule autorité organisatrice qui exploite entre Clermont et Béziers un train direct, un aller-retour par jour, avec effectivement pas grand monde dedans une fois qu'on a passé le sein, le mois 5. Il y a 5 000 voyageurs dans chaque sens à peu près sur le sein Clermont, puis il y a 5 000 voyageurs entre Le Saint et les Béziers, dans chaque sens à l'année. Donc, mais quand il y a un train par jour, de toute façon, il peut y avoir beaucoup de monde dedans. C'est bon. Et sur la ligne du CNE, c'est la région qui exploite, l'État a payé les matériels neufs, l'État cofinance une partie du déficit. Bon. La région Occitanie avait accepté de cofinancer une partie du déficit d'exploitation de l'Aubrac. Donc, des accords croisés, vous voyez, puis une infrastructure qu'il faut régénérer avec des estimations que l'on ne peut pas représenter par la SNCF Réseau. Et une vision globale de l'axe à construire, parce qu'il faut, sur ces axes-là, c'est pas seulement du point à point, de Clermont à Béziers, de Clermont à Nîmes, voire à Marseille, même si je ne pense pas que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ait l'intention de prolonger des trains jusqu'à Nîmes, et j'ai pas l'impression que la région Occitanie ait envie de prolonger les trains jusqu'à Marseille, indépendamment des problèmes d'exploitation de Saint-Charles. Et on ne va pas tout traiter cet après-midi. Mais vous voyez bien qu'il faut ce travail en commun qu'on a conduit, qui est un peu suspendu ces temps-ci, hein, sans dévoiler le secret d'État. Le gouvernement précédent a fait une proposition en avril dernier aux deux régions, hein, sur le plan d'investissement pour le Brac et le Seine-Nord, et nous attendons la réponse depuis avril. Mais on n'arrivera pas à trouver une solution chacun dans son coin, pour le dire de toute façon. Troisième élément, c'est là aussi l'impératif d'avoir de se projeter dans un temps long et pas avec un modèle qui est le modèle d'aujourd'hui. Si je reprends la question de l'Aubrac, c'est un excellent exemple. On a une ligne électrifiée, ce n'est pas le cas du Cévenol, y compris dans la partie la plus montagnarde. Est-ce que demain, il faut raisonner sur le type d'exploitation actuelle, avec l'électrification telle qu'elle est aujourd'hui, les matériels, alors j'ose pas dire tels qu'ils sont aujourd'hui, parce qu'on est sur des rames corail qui commencent à accuser le poids des ans, hein, qu'on prolonge comme on peut, c'est de plus en plus cher. À chaque fois qu'il faut prolonger pour 6 ans, c'est 500 000 euros d'investissement pour une voiture aujourd'hui, pour pouvoir prolonger une voiture corail sur 6 ans, il faut, il y a 500 000 euros de travaux pour vous donner les ordres de grandeur. Ça devient bientôt plus intéressant d'acheter du matériel. Donc, est-ce que c'est ce modèle-là demain? Et ça a été la modernité. Est-ce qu'il ne faut pas envisager d'autres types de matériel avec une autre forme d'électrification éventuellement, avec des trains plus légers que les trains qui circulent aujourd'hui? Donc, est-ce qu'il ne faut pas concevoir notre plan d'investissement en fonction d'un matériel qui sera différent de celui qu'on a aujourd'hui? Deuxième élément, et nous avons travaillé avec le commissaire Massif là-dessus, comment est-ce qu'on intègre cette évolution du service incontournable dans les projets territoriaux, bien ce que disait M. Faucon. Parce qu'on voit bien que sur ces axes-là, on n'a pas une clientèle unique. La clientèle n'est pas du tout la même de Clermont à Arvant, elle n'est pas du tout la même de Nîmes à Alès, qu'elle ne l'est d'ailleurs entre Béziers et Bédarieux. C'est pas du tout le même fonctionnement qu'entre Nîmes et Alès, entre Béziers et Bédarieux. On pourrait penser que c'est du périurbain, mais c'est pas le même périurbain. Béziers n'est pas Nîmes, d'ailleurs. L'arrière-pays de Béziers n'est pas l'arrière-pays de Nîmes. Et qu'est-ce qu'on fait pour les parties centrales? Comment on conçoit la relation de demande avec la plaine du Bas-Languedoc? Il y a toute une série de questions autour qui renvoient à la structure du territoire, aux différents types d'activités. Comment gère-t-on des flux touristiques et comment crée-t-on une offre vraiment touristique autour de ces deux axes qui traversent des régions splendides? On peut vendre un produit train qui est un élément d'un produit touristique plus complet au lieu de simplement de vendre du déplacement, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser à partir d'un cas particulier.